Voilà, c'était un petit champ d'actualité pour marquer la période dans laquelle la République française est rentrée depuis quelques jours. C'est ma façon de rendre hommage à Zineb, 80 ans, tuée par une grenade lacrymogène alors qu'elle fermait sa fenêtre au quatrième étage. C'est une façon de rendre hommage à ceux qui ont perdu un œil, à ceux qui ont été tabassés, à tous ceux qui ont souffert de l'autre violence, celle dont on ne parle pas dans les communiqués officiels et qui est visible sur les écrans. On en reparlera certainement. Je vais vous parler de la France sous un autre aspect. Vous ne savez pas ce que c'est que M. Dupuis de Lhomme. Et vous avez bien raison, le personnage n'a pas une grande importance historique. Vous trouverez évidemment sa biographie sur Internet en utilisant de bons moteurs de recherche. J'insiste, alors il y a des moteurs de recherche qui sont financés par le Pentagone, donc l'armée des États-Unis et par la CIA, et qui donc de ce fait peuvent transmettre l'ensemble de vos données, l'ensemble de vos communications à ceux qui les soutiennent, c'est-à-dire le Pentagone et la CIA. Bon, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres, donc vous pouvez utiliser les autres moteurs de recherche. Je vous y invite. Donc, Dupuis de Lhomme, ça n'a pas d'importance, le nom du personnage. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quelques années de ça, la marine française, je veux dire pas celle de Marcel Pagnol, la marine française, donc la marine nationale, a donné ce nom, monsieur Dupuis de Lhomme, à un navire très spécial, qui est un navire espion. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un navire espion ? C'est un navire spécialement, alors qui est très peu armé, puisqu'il n'est pas supposé participer à des batailles au sens classique du terme, mais il est là pour aller écouter sur toutes les fréquences, que ce soit dans le hertzien, sur les câbles, etc., voir tous les radars qui sont à proximité de l'endroit où il se trouve. Ça permet à la France, donc au ministère de la Défense et à la présidence de la République, vous savez, le chef des armées siège à l'Élysée, d'aller quelque part dans le monde pour écouter tout ce qui s'y dit, mais bien sûr sur les questions stratégiques, militaires, les échanges entre les états-majors, les échanges entre les avions en l'air et leurs bases au sol, enfin tout ce qu'on peut utiliser avec cette espèce de grande oreille qu'est le Dupuis de Lhomme. Très peu connu, on en parle fort peu, mais c'est un bâtiment, donc, paraît-il, d'une qualité technique assez rare, qui met la France dans un très bon rang pour ce type d'espionnage. Il s'agit d'un navire espion, qui est présenté comme tel, il n'y a rien de caché, puis ça se voit à la quantité d'antennes, de radars, de radomes qu'il a sur le pont, et ça certainement beaucoup autant à l'intérieur, sous le pont. Et depuis quelques jours, ce bâtiment est au large des côtes syriennes. Alors que fait-il ? Eh bien, il va écouter, parce que les militaires qui n'ont pas grand-chose à cacher là-dessus disent qu'en fait, quand on est au large des côtes syriennes, tout en restant bien entendu dans les eaux internationales, on peut écouter tout ce qui se dit, y compris entre un pilote syrien dans un avion de chasse et son état-major à terre. On peut regarder vers quoi sont tournés les radars russes ou les radars syriens, etc. Et on est beaucoup mieux placé parce que ce genre d'écoute, bien entendu, existe sur le territoire national. Mais c'est beaucoup plus loin et donc il y a de la perte en ligne. Et donc quand on est à quelques dizaines de kilomètres de la côte syrienne, on entend absolument tout ce qui se passe sur le champ de bataille syrien. Et donc, alors, pourquoi faire ça ? Ça n'est pas dit, c'est-à-dire ce bateau espionne, il est là parce que ça implique simplement la participation intense de la République française dans les derniers combats qui se livrent encore sur le sol syrien avant d'arriver à la stabilisation de la situation politique qui est déjà très très largement avancée. Mais il reste encore des combats possibles, en particulier autour de la poche d'Idleb et puis dans d'autres endroits, puisque en même temps ou quelques jours après que le Dupuis de Lhomme soit allé donc poser son ancre et sa grande oreille au large des côtes syriennes, un certain Bernard Kouchner est rentré clandestinement sur le sol syrien. Il y a été reçu par les autorités américaines, parce qu'évidemment, vous savez que les Américains ont des troupes en Syrie qui n'ont pas été invitées, qui ont donc pris un morceau du territoire à la force du pistolet mitrailleur et qui sont là avec leurs amis kurdes ou leurs alliés kurdes pour essayer d'arracher un morceau de la République arabe syrienne à son gouvernement légitime et légal. Et donc M. Kouchner rentre clandestinement par des bois qui n'ont pas été dévoilés et se retrouve donc en territoire américain dans le cadre de la République arabe de Syrie. Ça veut dire, alors, M. Kouchner étant ce qu'il est, ayant le passé qu'on connaît, donc le passé de porteur de sacs de riz, le porteur d'interventions un peu partout, je pense en particulier dans la guerre de Yougoslavie, M. Kouchner vient au nom évidemment de la République française, même s'il n'est pas en mission officielle, pour continuer à mettre le grain de sel de la République française sur le théâtre d'opérations syrien. J'utilise ça le vocabulaire militaire, théâtre d'opérations, parce qu'il y a un certain nombre de pays, dont la France, dont les États-Unis, dont la Grande-Bretagne en particulier, qui ne veulent pas que la Syrie soit en paix. Et donc, ça justifie la présence du Dupuis de l'Aube et la venue de M. Kouchner, qui est venu voir ce qui s'est passé, puis intervenir pour encourager, je pense, encore la possibilité, si c'est encore possible, de garder un petit morceau de la Syrie pour quelqu'un qui n'a rien à y faire, que ce soit les États-Unis ou la France. Alors, c'était bon de le dire parce que ça ne se dit pas beaucoup, ça ne passe pas beaucoup dans la grande presse, mais les gens dans la région qui observent la situation, les services de renseignement syriens, les services de renseignement russes, savent effectivement tout ça et savent qu'effectivement, il y a aujourd'hui des pays, dont le nôtre, qui sont opposés à la pacification en Syrie. Alors, ils perdent probablement leur temps, mais ça fait encore couler du sang en attendant que la situation soit totalement apaisée. Je vais maintenant vous parler d'un autre phénomène qui a aussi été relativement peu relayé, en particulier pas aux États-Unis. Il y a de ça, c'était la semaine dernière, je crois, une dame chinoise arrive donc à Vancouver. Alors Vancouver, vous savez, c'est le grand port de la côte pacifique du Canada, qui est l'endroit du continent américain le plus proche de la Chine. Et donc elle sort de son avion pour en prendre un autre qui devait l'emmener aux États-Unis. Et elle est victime d'un rapt, c'est-à-dire cette dame a été capturée par la police canadienne et elle est en prison en ce moment. Alors on pense qu'il n'y a pas de menace sur ses jours, on pense qu'ils vont pas la torturer, parce que cette dame, alors et tenez-vous bien, elle s'appelle Madame Meng Wanzhou. Alors Madame Meng Wanzhou est bien entendu quelqu'un d'important, et c'est pour ça quand même que ça s'est su qu'elle avait été enlevée et donc maintenant séquestrée, juridiquement parlant, par la police canadienne, en attente de répondre à une demande d'extradition de la dite personne de Madame Meng Wanzhou par le gouvernement des États-Unis. Et elle a l'avantage, j'allais dire, d'être la directrice financière de la compagnie qui s'appelle Huawei, qui est aujourd'hui, alors vous avez peut-être vu des affiches, on commence à voir des smartphones Huawei en vente sur notre territoire. Il y avait ces dernières semaines une affiche, une grande affiche dans les rues de Marseille où il y avait marqué Huawei sur l'immeuble de la rue des Feuillants. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Et donc Huawei est aujourd'hui, alors c'est là que ça devient intéressant. En fait, Huawei est aujourd'hui en train de prendre la place sur le marché mondial des smartphones d'une boîte qui s'appelle Apple. Ça vous dit peut-être quelque chose. Parce que Huawei, effectivement, a acquis la technologie, les capacités de formation, et puis avec un grand marché chinois qu'il est en train de satisfaire, il a mis au point donc des smartphones de la dernière génération qui sont en train de se mettre à s'arracher. D'ailleurs, j'ai regardé, certains opérateurs français du téléphone portable proposent aujourd'hui des Huawei, comme ils proposaient il y a peu des Nokia ou des Samsung, qui continuent d'ailleurs à le faire pour avoir une diversité. Bon, cette dame donc est directrice financière de Huawei, et elle a été donc séquestrée, raptée et séquestrée, parce que, paraît-il, sa compagnie, donc la compagnie Huawei, aurait eu des intérêts en Iran, qu'elle n'aurait pas respecté les sanctions prises par les États-Unis contre l'Iran. Enfin, on ne sait pas quelle est la qualité juridique du motif. Toujours est-il qu'on a mis ça en avant. Voilà, on la prend. Et donc, elle est là. On ne sait pas, au jour où je vous parle, si elle sera effectivement extradée vers les États-Unis, où là, effectivement, on peut craindre que, à défaut de lui faire mal, ce qui serait quand même un incident diplomatique très, très fort, elle subisse d'assez mauvais traitements, au moins psychologiques. Elle est, alors je le signale parce que ça fait aussi partie de la vérité, elle est la fille du président fondateur de la société Huawei, aujourd'hui donc le principal et de la meilleure qualité des producteurs des smartphones au niveau mondial. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça ? Il y a deux choses. Alors, la première chose, c'est qu'il y a que la capture de Madame Meng Wanzhou a été réalisée après que le président chinois et le président Trump et leur délégation se soient rencontrés à Buenos Aires. Rencontre à l'issue de laquelle il a été annoncé que, je vous l'avais dit la semaine dernière, qu'il y avait 3 mois d'armistice dans la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Guerre commerciale qui risque de faire beaucoup de dégâts dans les deux économies concernées et donner un climat très très délétère et négatif dans l'ensemble du commerce mondial. Ça, on le sait. Or, tout le monde était un petit peu surpris de cette espèce d'armistice qui s'était réglé vraiment autour de la table de négociation entre les deux présidents. Et en fait, il y a manifestement dans cette opération, donc le rapt de Madame Meng Wanzhou, une tentative de l'entourage de Donald Trump de lui, on dirait, casser la baraque. C'est-à-dire, en fait, il a fait un geste qui était un geste d'apaisement dans le conflit qu'il y a avec la Chine sur les questions du commerce international. Et il y a dans son entourage quelqu'un ou quelques-uns qui ont décidé de lui savonner la planche, de lui compliquer la vie. C'est des gens qui ne veulent pas qu'il y ait une suspension de la guerre commerciale ou qu'elle reste à un niveau plus raisonnable. Qui sont ces personnages ? On le sait à peu près clairement maintenant, puisque le coupable a avoué. Il s'agit de M. Bolton, l'ineffable M. Bolton, donc conseiller à la sécurité du président des États-Unis. C'est-à-dire ce personnage a reconnu après qu'il avait effectivement été au courant, mais qu'il n'avait pas jugé nécessaire de prévenir le président Trump. Alors, imaginez quand même la situation, mais c'est une situation à la Benalla puissance 2 ou puissance 10. Vous avez dans le bureau ovale, le fameux bureau ovale de la Maison-Blanche, un monsieur Bolton chargé de la sécurité nationale qui cache des informations très importantes à son président. C'est-à-dire, il le manipule, hein, il essaye de lui faire faire des choses que l'autre n'a pas forcément envie de faire. Et donc, en fait, ce qu'a fait M. Bolton en organisant le rapt de Mme Meng Wanzhou, c'est effectivement de compliquer la tâche et de rendre ridicule le président Trump dans son souci d'essayer d'éviter un affrontement trop violent avec la République populaire de Chine. Voilà comment fonctionnent aujourd'hui les États-Unis d'Amérique. Et je pense que du côté de l'Élysée, on ne doit pas être loin de tel genre de fonctionnement. Mais la suite des événements nous le dira. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière ce Huawei et cette capture ? Bon, il y a effectivement, ça c'est le premier aspect tactique et immédiat, une volonté d'un certain nombre de responsables des États-Unis qu'il n'y ait pas de ralentissement de la guerre contre la guerre commerciale, économique contre la Chine, et puis d'inscrire la politique des États-Unis dans le sens qu'une commission du Congrès, d'ailleurs une commission chargée de la stratégie à long terme composée de 6 républicains et de 6 démocrates est en train de mettre sur pied, c'est-à-dire que l'annonce est très très simple. Il s'agit de savoir en 2025, quand la Chine, alors tenez-vous bien, quand la Chine envahira Taïwan, quelle sera la riposte militaire des États-Unis et est-ce que les États-Unis auront assez de moyens militaires pour résister et même pour empêcher ou pour annuler cette invasion de Taïwan. Alors ça, c'est le premier objectif, c'est la Chine. Le deuxième objectif, c'est la Russie, puisque dans le même document donc, qui est en cours de préparation au Congrès, il est dit que dans les mois qui viennent ou dans les quelques années qui viennent, la Russie va envahir les républiques baltes. On le sait, il y a encore des minorités russes et russophones qui sont là, mais qui sont en ce moment assez maltraitées. Pour justifier alors, cette invasion donc, des républiques baltes, Estonie, Lituanie ou Estonie, ou les trois à la fois d'ailleurs, justifierait bien entendu l'entrée en guerre des États-Unis. Et là encore, la question se pose de savoir si les États-Unis seraient militairement en capacité de refouler cet envahisseur. Donc deux envahisseurs potentiels, aucune annonce bien entendu d'aucun des deux pays ne va dans ce sens, un envahisseur potentiel de Taïwan d'un côté, un envahisseur potentiel des républiques baltes de l'autre, qu'il faut mater. Et donc là se pose la question, mais à laquelle la réponse est toujours la même. Puisqu'on risque de ne pas voir les mater, il faut augmenter les budgets militaires des États-Unis. Alors c'est déjà la moitié du budget militaire mondial, mais il faudrait mettre encore plus. Et puis il faudrait continuer à alimenter cette espèce de tonneau des Danaïdes, puisque dans le même temps où on annonce ce genre de préparatifs, il y a une commission du Congrès des États-Unis qui s'occupe de savoir où va l'argent du Pentagone. Et tenez-vous bien, parce que sur une période assez longue, cette commission a découvert que plusieurs vingtaines de milliers de milliards de dollars du Pentagone sont partis à des endroits où on ne peut pas dire qui ils sont et où ils sont. C'est-à-dire qu'il y a de l'évaporation dans les tuyaux qui vont du Trésor au Pentagone. Alors cette évaporation, elle arrive forcément quelque part, mais elle n'arrive pas nécessairement dans la poche des gens qui au Pentagone font leur métier, c'est-à-dire commandent des armements, payent des soldats, payent des pensions, etc. À telle enseigne d'ailleurs qu'on sait que les vétérans, donc les anciens militaires d'État, sont assez mal payés et maltraités. Donc cet argent s'évapore. Où va cet argent? Alors l'hypothèse en gros, c'est qu'il sert à corrompre les acheteurs de matériel militaire américain. C'est tout à fait simple, parce qu'on n'est pas impunément, ça vient d'être confirmé par le fameux institut suédois qui s'appelle le CIPRI, les compagnies militaires fabricants d'armes des États-Unis, dans les 10 premières places du classement mondial des vendeurs d'armes, en occupent 7, donc avec en tête Lockheed, Raytheon, General, peu importe, mais donc effectivement, ça veut dire qu'ils vendent bien sûr aux États-Unis, mais qu'ils vendent partout, et pour vendre partout, surtout quand on a affaire à des pays pas très solides, pas très puissant, pas très démocratique, il faut corrompre les dirigeants. Et donc voilà probablement où partent les milliers de milliards de dollars, tenez-vous bien, qui s'évaporent entre le Trésor et le Pentagone. Donc c'est un empire, l'empire américain qui est à sa fin, est en train de fonctionner avec un niveau de corruption jamais atteint dans l'histoire de l'humanité. C'est hélas le cas d'un des meilleurs témoins de l'Empire américain qui s'appelait William Blum. William Blum, qui vient de décéder donc à 85 ans et qui, alors c'était un parcours assez intéressant, William Blum, donc essayiste états-unien, d'abord très très anticommuniste, qui après la guerre du Vietnam, au moment de la guerre du Vietnam, se met à se poser des questions et après va s'installer définitivement dans un rôle de critique. Il aura même fait un livre très célèbre qui s'appelle L'Empire voyou, hein, les Rogue Empire, à l'image de ce qu'on prétendait être les autres, pour dire ben voilà comment fonctionne cet empire. Et il a tenu des états très très à jour de toutes les interventions militaires des États-Unis. Alors je vous recommande, il y a quelques livres de William Blum qui ont été traduits en français. Pour ceux qui sont anglophones, il sortait tous les mois un rapport qui s'appelait le Anti-Empire Report. Il est encore accessible en ligne. Hein. William Blum, notez ce nom, qui est facile à retenir. C'est un document extrêmement riche, fait par un citoyen américain, très très bien informé, qui n'est pas arrivé d'ennui. Il a réussi à dire ce qu'il avait à dire tout le long de sa longue vie militante. Et donc on y apprend beaucoup, beaucoup de choses qu'on ne savait pas par ailleurs. Voilà donc un premier aspect de cette affaire au Huawei. Mais il y en a un deuxième. C'est que derrière la réussite donc industrielle, technologique de Huawei, il y a un énorme projet qui est en cours. Cet énorme projet qui est en cours, c'est ce qu'on appelle la 5G. Alors la 5G, vous en avez probablement entendu parler. Il s'agit donc de la génération donc des outils genre téléphone portable, tablette, etc., etc., qui va succéder à la génération actuelle du 4G. Là, jusqu'à présent, je ne vous ai pas appris grand-chose. Alors, pour l'instant, on parle de 5G, mais il n'y a pas, à l'inverse de la 4G, encore un standard international qui est formalisé, qui est dit la 5G, c'est exactement ça. Parce qu'il s'agit tout simplement, c'est pas très compliqué de passer de la 4G à la 5G, enfin pas très compliqué, au niveau des concepts, je veux dire. C'est pas très compliqué, il s'agit simplement d'augmenter les débits de tous ces engins connectés entre 10 et 50 fois. C'est pas doublement, c'est 10 fois plus ou 50 fois plus. C'est-à-dire qu'avec la 5G, vous pourrez recevoir sur un portable des grosses données, comme on dit, les big data, vous pourrez recevoir des messages beaucoup plus vite, de beaucoup plus d'endroits, vous aurez un outil extraordinairement performant. Bon, c'est ça qui se prépare. Et là, Huawei est très en avance avec ses matériels à lui qu'il fabrique. On est au moment où pratiquement, enfin peut-être l'année prochaine, peut-être en 2020 au plus tard, il y aura un choix. Alors il y a pour l'instant, pour la gestion de la 5G, différentes techniques sur lesquelles je ne vais pas m'étendre pour la faire fonctionner. pas une pour l'instant n'a été choisie, elles sont expérimentées. Alors elles ont été expérimentées par Huawei. Huawei s'est associé avec le Suédois Ericsson, qui est aussi dans le métier de la téléphonie portable. En France, Orange s'y intéresse, Bouygues Télécom s'y intéresse aussi. Enfin, partout dans le monde, les opérateurs de téléphone et les fabricants de téléphones et de téléphones portables s'intéressent à la 5G parce qu'ils savent qu'il y a un marché énorme. Le marché, d'ailleurs, commencera par la Chine populaire, puisqu'elle est très, très en avance sur ce domaine-là. Et il faut savoir, alors, petite anecdote, que Huawei a installé à Paris un bureau d'études sur les questions donc, de la 5G, qui emploie déjà une centaine de personnes, très, très pointues, alors, enfin, les fans de l'algorithme, de l'intelligence artificielle et tout. Et donc, on est là face à un énorme marché, un énorme marché potentiel qui serait donc la suite du marché des portables 4G, 3G et ceux d'avant. Tout ça va se jouer entre 2019 et 2022. Donc adoption plutôt d'une norme internationale, la meilleure technique possible, et puis ensuite lancement sur le marché du 5G, en sachant que d'ores et déjà, et ceci explique aussi peut-être un peu cela, que la Chine sera très en avance pour l'adoption de la 5G, puisqu'elle aura le matériel, l'industriel, les réseaux, etc. Et que dès 2022, 30% des usagers mondiaux de la 5G seraient des Chinois. Et là, on sent bien donc, le côté anecdotique de l'enlèvement de Madame Meng Wanzhou. C'est beaucoup plus que ça. C'est une façon de reconnaître qu'ils se sentent dépassés et que ce concurrent qui décidément leur prend la place, parce que Huawei, c'est prend la place de Apple et se met en capacité de couvrir le marché mondial alors qu'Apple ne le pourra plus. C'est ça que ça veut dire. Et ça, je pense que dans la mentalité des impérialistes états-uniens, qu'ils soient industriels, banquiers ou dirigeants politiques, c'est tout à fait insupportable. Il faut savoir que la Chine a déjà une grosse avance, puisqu'il y a aujourd'hui, pour la 4G, je ne parle pas de la 5G, pour la 4G, il y a aujourd'hui 850 millions de Chinois qui sont abonnés à la 4G. Donc ils sont déjà prêts au saut vers la 5G, et comme eux, les clients et leur entreprise, de la même façon. Alors voilà tout ça qui éclaire un peu cette étrange opération qui paraît une opération western. On séquestre une directrice financière chinoise, sans dire pourquoi ou avec des motifs plus ou moins discutables. En fait, il y a beaucoup plus que ça. Il y a une espèce d'atteinte à la domination technopolitique des États-Unis dans un endroit où ils pensaient encore être les plus en avance, c'est-à-dire le domaine donc de ce qu'on appelle les GAFA, donc Amazon, Google et tout ça. Ben là non, sur côté Apple, ça c'est en train de baisser. Apple, l'étoile de Apple est en train de pâlir et c'est pour ça que Madame Meng Wanzhou est en prison. On en reparlera certainement. Dans le même temps, je reste aux États-Unis pour parler de deux petits remplacements. Je ne sais pas, M. Bolton, malgré le coup tordu qu'il a fait à son président, est pour l'instant encore en poste, mais le président a remplacé sa représentante permanente à l'ONU, qui s'appelle toujours Mme Nikki Haley. Alors, Mme Nikki Haley, elle a dit qu'elle en avait assez de ce poste. Enfin, elle a trouvé un prétexte très poli pour dire qu'elle ne voulait plus l'avoir. En fait, je pense qu'elle était condamnée, car ce que Trump ne lui a pas pardonné, c'est que, souvenez-vous de la dernière Assemblée générale des Nations unies, quand Trump est venu faire son discours, au moment où il a pris la parole, une partie de la salle, alors la salle, c'était pas des gamins mécontents, c'était des diplomates représentant la totalité des pays du monde, une partie de la salle a éclaté de rire. Et je pense que dans le personnage très, très vaniteux de Donald Trump, ce qu'il est effectivement, enfin, qui se regarde beaucoup lui-même, etc., ça a été complètement insupportable de se voir moquer devant une assemblée internationale, devant les caméras du monde entier, etc. Et donc, il a dû aller voir, j'imagine, après la sortie, en disant « Madame Haley, vous m'amenez dans des endroits où je me fais moquer de moi, on me ridiculise, ça va vous coûter cher ». Alors, il ne lui a peut-être pas dit comme ça, mais elle a dû comprendre qu'elle avait intérêt à changer de poste. Et donc, M. Trump l'a remplacé par M. Eisenhower, qui paraît encore un peu pire de ce qu'elle était elle-même. Mais après tout, ils sont là pour appliquer une politique qui n'a rien de très présentable. Voilà du côté des États-Unis. Allez, et je reste un tout petit peu, je reste quand même un petit peu aux États-Unis parce qu'il faut toujours en parler. Et puis, il n'y a pas que la France où il se passe des choses intéressantes. Un chroniqueur de CNN qui s'appelle M. Mark Lamont Hill, qui est un... Alors, je précise parce que vous ne voyez pas sa photo, mais regardez, Mark Lamont, L-A-M-O-N-T, Hill, comme la colline, qui est donc, je le signale, il est noir. Et il faisait une chronique sur CNN à propos de la Palestine, parce qu'il avait tenu, devant une commission spécialisée de l'ONU, un discours, enfin, il avait présenté un papier, comme on dirait, sur la question palestinienne. Et qu'a dit monsieur Mark Lamont Hill? Ben, il a dit tout simplement, écoutez, le processus d'Oslo, c'est terminé. Alors je rappelle, le processus d'Oslo, ça commence il y a 25 ans, et ça consistait à dire, il faudra qu'il y ait deux États, et que chaque État s'organise, respecte l'autre, etc. Bon. Et il dit, ce que tout le monde sait, que tout le monde a compris, le processus d'Oslo, maintenant, ça n'a jamais rien donné. La preuve, c'est qu'il n'y a toujours pas le deuxième État. Il n'est toujours pas reconnu. S'il est reconnu internationalement en tant qu'autorité palestinienne, mais pas plus que ça. Et donc, il dit, ben, c'est, faut arrêter cette fiction. Les deux États, ça n'existe pas. Le processus d'Oslo est mort. Donc, arrêtons le processus d'Oslo et considérons, alors il pose ça sur la table devant une commission de l'ONU et ça passe sur les ondes de CNN, considérons que désormais, il est nécessaire qu'il y ait un seul État sur le territoire de la Palestine et que dans cet État, les citoyens israéliens et les citoyens palestiniens soient égaux en droit, etc. Bon. Alors il dit ça, et il dit ça calmement, comme un universitaire qu'il est, en sortant d'une commission de l'ONU, où il a fait un papier, il n'est pas venu faire un meeting, le point levé, il a simplement dit cette vérité que tout le monde connaît, les deux États, ça ne marche plus, de toute façon il n'y a même plus de territoire pour un État palestinien où il en reste presque rien. Bon, État unique, respect et égalité des deux catégories de citoyens. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce n'est pas compliqué, à l'évidence. Monsieur Mark Lamont Hill a été viré, il n'est plus chroniqueur de CNN. C'est terminé. Pourquoi? Ben, pas seulement, il a été accusé d'antisémitisme. Alors, c'est un cas très très concret et très récent. Vous dites que les citoyens israéliens et les citoyens palestiniens sont égaux, vous faites de l'antisémitisme. L'égalitarisme, c'est de l'antisémitisme. C'est-à-dire que vous attentez à cette vérité que la religion juive a mise dans la tête d'une partie de ses pratiquants, heureusement pas tous, que les gens qui pratiquent la religion juive sont supérieurs humainement aux autres. Voilà. Ça, voilà. Et il a mis le doigt là-dessus. Et donc, antisémitisme dehors de CNN. Bon. C'est un cas de plus. Mais ce qui est intéressant en même temps, c'est que des personnages comme ça, honorables, universitaires, qui viennent faire un travail pour l'ONU qui est développé, il y avait des arguments, moi je vous ai résumé, mais le résumé en dit long, ces personnages-là n'ont pas encore droit de citer. On va les écarter. Alors il n'a pas été viré de son université. Je pense qu'il sera accueilli dans d'autres cénacles. Mais voilà où on en est de cette question palestinienne qui continue à pourrir les relations internationales depuis longtemps. Et ça continue. Ça, c'était un autre aspect des États-Unis. Puis le dernier personnage que j'ai retrouvé aux États-Unis qui m'intéresse, c'est la fameuse Madame Yulia Tymoshenko. Alors vous vous souvenez peut-être, vous qui regardez la télévision, vous vous souvenez peut-être de cette Ukrainienne avec des cheveux blonds et une tresse, une superbe tresse qu'elle nouait autour de sa tête, un personnage hors du commun, enfin une image hors du commun et un peu inhabituelle sous nos latitudes. Madame Yulia Tymoshenko a été deux fois Premier ministre de l'Ukraine. Elle a été associée avec un président de la République qui s'appelait Monsieur Yushchenko. Et en fait, elle a eu des ennuis parce qu'il semble bien, enfin il est même certain, puisqu'elle a fait de la prison pour ça, qu'elle allait un peu mettre les mains dans la caisse de la société qui transporte et distribue le gaz russe en Ukraine. Et donc elle a quand même fait quelques années de prison parce qu'effectivement elle était corrompue, elle avait beaucoup mis d'argent public dans sa poche. Mais elle est ressortie. Elle a purgé sa peine et elle est en train d'entamer aux États-Unis, avec le soutien donc de la communauté ukrainienne aux États-Unis. Il y a une grosse communauté ukrainienne qui est sur place et qui est très très active et très répandue dans les couloirs du Congrès et qui est un lobby de grande taille. Elle a commencé sa campagne pour les présidentielles ukrainiennes, je précise, qui ont lieu au printemps 2019. Et donc elle est le candidat probablement que les États-Unis et que le lobby ukrainien vont soutenir contre M. Porochenko, l'actuel président de l'Ukraine, qui finit sa carrière de façon assez catastrophique, puisque d'abord la population n'a plus du tout confiance en lui, et que la seule possibilité qu'il ait de se refaire une image positive dans l'opinion ukrainienne serait de tuer le maximum de citoyens de l'Est du pays, je parlais de ceux des républiques du Donbass, et de faire du mal, voire de bombarder la Crimée. Bon, je pense qu'il n'ira pas jusque-là parce que, justement, donc il y a une possibilité d'une alternative politique, celle de Mme Tymoshenko, qui reste tout à fait un personnage favorable aux États-Unis, favorable aux intérêts des États-Unis, mais qui est quand même relativement plus présentable. C'est-à-dire elle était plus corrompue, mais probablement moins belliqueuse que ne l'est M. Porochenko. Encore que plus corrompu que lui, c'est peut-être difficile à obtenir, mais je ne sais pas s'il y a un classement des corrompus chez les dirigeants ukrainiens, mais il y en a un certain nombre qui sont bien classés de toute façon. Et donc, c'est probablement la solution de rechange, c'est-à-dire pas du tout un candidat évidemment pro-russe, inimaginable, insupportable, et d'ailleurs il se ferait assassiner le jour même par les fascistes qui sont dans les équipes gouvernementales ukrainiennes, mais une candidate comme Mme Tymoshenko est peut-être la candidate permettant au moins d'aboutir à une situation qui ne soit pas une situation de guerre ouverte avec le voisin russe. Que le voisin russe ne souhaite pas d'ailleurs, puisque à telle enseigne qu'il a... Alors vous vous souvenez de l'incident donc, de Kerch dont j'ai parlé, la situation est revenue tout à fait normale. Enfin, les marins donc, ukrainiens sont en prison, ils sont en procès, les marins et les agents des services de renseignement ukrainiens. Et par ailleurs, la Russie a renouvelé le libre passage des vaisseaux de commerce qui vont desservir les ports ukrainiens qui sont à l'intérieur de la mer d'Azov. Je pense à Mariupol et un autre qui sont donc sur la rive ouest de la mer d'Azov et qui sont donc des ports classiquement commerciaux qui ont repris leur activité normale. Donc la Russie a marqué le coup face à la provocation ukrainienne et puis après la situation est redevenue normale. D'ailleurs, on n'en parle plus. Il a été admis qu'ils avaient tenté un coup tendu, enfin Porochenko et son équipe, et puis qu'on s'en tenait là. Voilà pour ce qui est de la situation aux États-Unis. Et puis une autre situation qui va rejaillir sur les États-Unis, parce qu'elle est un peu inattendue, c'est ce qui s'est passé à la dernière réunion de l'OPEP, donc la semaine dernière, avec un accord qui a eu lieu vendredi dernier, sur les tarifs du pétrole et sur la production de pétrole brut. Alors l'accord était possible, il est intervenu, donc c'est un accord entre l'OPEP et la Russie qui n'est pas membre de l'OPEP pour diminuer chacun de son côté, donc l'OPEP un peu plus et la Russie toute seule un peu moins, la production annuelle de pétrole, la production quotidienne pardon, de pétrole brut, de telle façon à faire remonter les cours. C'est ce qui va se passer. Alors c'est une assez mauvaise surprise pour les États-Unis parce qu'ils espéraient bien quand même que cette baisse des cours affaiblirait beaucoup l'Iran, affaiblirait certainement aussi beaucoup le Venezuela et ils auraient bien aimé que ça continue. Avec malgré tout cette contradiction que plus le cours du pétrole brut classique diminuait, plus la vente du pétrole de schiste, du pétrole donc extrait par les méthodes classiques de fracking, devenait difficile à vendre. Mais ça, c'était secondaire. Donc il y a cet accord. Et donc le pétrole va certainement remonter. Il était à 80 dollars le baril au mois d'octobre. Là, il est descendu vers 50 et puis ça va remonter normalement. Ça veut dire que l'OPEP fonctionne bien et surtout ça veut dire que l'OPEP fonctionne bien avec la Russie. À telle enseigne, et c'est pas qu'anecdotique, que le ministre du pétrole, M. Alexandre Novak, qui assistait, qui participait, qui représentait la Russie à la réunion de l'OPEP, a fait, la veille du jour de la conclusion de l'accord, un aller-retour entre donc Vienne, où siège l'OPEP, et Saint-Pétersbourg, où se trouvait Vladimir Poutine, pour prendre les dernières consignes et pour revenir à Vienne le lendemain pour donner son accord. C'est une affaire stratégique qui a mis en face, enfin qui a montré, alors c'est très intéressant pour la suite des événements, parce que les difficultés, même si elles sont cachées, que l'affaire Khashoggi a révélées entre les États-Unis et le Royaume d'Arabie Saoudite, en fait, montrent qu'à la place, il y a des liens étroits et de compréhension entre, alors des intérêts communs, j'allais dire, c'est pas plus que ça, Poutine n'est pas devenu wahhabite, mais simplement il y a des intérêts étroits et une compréhension entre l'Arabie Saoudite et la Russie, qui fait que l'espèce de faille, enfin le divorce qui commence entre l'Arabie saoudite et les États-Unis risque de s'amplifier, et les États-Unis pèsent de moins en moins sur la politique, parce que les États-Unis ne souhaitaient pas que le prix du pétrole remonte, pour les raisons que j'ai indiquées, mais la position des États-Unis pèse de moins en moins sur les décisions saoudiennes. Alors bien entendu, tout ça n'est que de la grande politique, c'est-à-dire que la Russie, qui sait certainement très très bien qui et comment et pourquoi a été tué M. Khashoggi, considère que c'est une affaire intérieure à l'Arabie saoudite et continue à négocier avec le gouvernement d'Arabie saoudite pour les questions fondamentales, stratégiques et d'intérêt collectif du prix du pétrole. Après, ce qui se passera dans le royaume d'Arabie saoudite dépend aussi en partie de la possibilité, de la capacité difficile des citoyens et citoyennes saoudiens de modifier le régime dans lequel ils vivent, et qui n'est pas exempte de reproches et qui est soutenu trop largement par les bourgeoisies occidentales, dont la bourgeoisie française. Voilà pour l'OPEP, la Russie. Et puis, je voulais vous parler un petit peu, c'est le moment, puisqu'aujourd'hui devait se tenir une réunion de la Chambre des communes, donc du Parlement britannique, qui devait, à la demande de Mme Theresa May, approuver l'accord conclu entre la Commission européenne et le Royaume-Uni. Cette réunion n'aura pas lieu, parce qu'il s'est avéré dans les jours précédents que Mme May n'aurait pas la majorité à ce vote du Parlement des communes, parce qu'il y aurait des défections, peu importe le détail, mais il était acquis qu'elle n'aurait pas la majorité. Donc elle risquait, si elle avait un échec devant la Chambre des communes, d'être mise en position de devoir démissionner, donc d'ouvrir une crise politique, nécessité de nouvelles élections et tout. Et donc c'est pour éviter ça qu'elle a dit, elle l'a dit très tardivement, puis je crois qu'elle l'a dit hier, finalement la réunion du Parlement n'aura pas lieu. Elle aura lieu un peu plus tard. Alors elle aura lieu un peu plus tard, et entre-temps, qu'est-ce qui va se passer? Alors elle dit, je vais revoir ma copie, si vous n'êtes pas d'accord avec l'accord qui a été préparé et signé avec la Commission européenne, je vais y retourner, on va revoir et tout. À mon avis, c'est sans illusion, puisque du côté de la Commission européenne, on dit que tout avait été examiné, tout avait été vu, et qu'il n'y a rien à faire. Donc on la laisse un peu à ses difficultés intérieures, qui risquent de durer. On verra comment ça se passe, parce qu'il faut savoir que si, alors ça c'est le calendrier diplomatique tel qu'il est, si d'ici le 25 janvier, je crois, Mme May n'a pas obtenu un soutien parlementaire donc à cet accord signé avec la Commission de Bruxelles, à ce moment-là, il n'y a plus d'accord possible, et donc on arrive le 29 mars, date fatidique, où la Grande-Bretagne sort de facto, le Royaume-Uni même sort de facto de l'Union européenne, et déjuré d'ailleurs de droit, et le lendemain matin, point à la ligne, le Royaume-Uni n'est plus dans l'Union européenne, c'est tout, c'est fini. Et donc il est traité comme un pays tiers, comme n'importe quel pays extérieur, ce qui veut dire que ce soir-là, le soir du 29 mars au soir, on ferme les frontières, on rétablit tout, et plus aucune marchandise, plus aucune personne ne peut a priori dire qu'il pourra rentrer ou ne pas rentrer. Cette situation-là, effectivement, fait très peur. Mais en fait, elle n'est pas en même temps dramatique, parce que d'une part, il faut savoir que les gouvernements européens s'y préparent. C'est vrai, par exemple, dans le cas de l'administration des douanes de la France, qui a déjà imaginé que le 29 mars au soir, effectivement, il faudrait fermer la frontière avec la Grande-Bretagne. Et on a même déjà examiné ce qui se passera pour le tunnel sous la Manche, etc., comment il faudra faire, quel type de contrôle et tout. On passe d'une situation où le Royaume-Uni est dans l'Union européenne, avec liberté de circulation, etc., etc., des marchandises, à une situation où il n'y est plus. Et donc, il n'y a plus de liberté. Bon, c'est une situation d'ailleurs qui est prévue, c'est-à-dire que si au lieu de demander à négocier des conditions de sortie avec des phases progressives, etc., de l'Union européenne, la Grande-Bretagne avait dit « le 29 mars, je m'en vais ». Bon, ben, c'était comme ça, on n'en parlait plus. Mais personne n'a voulu aller jusqu'à cette extrémité en disant « ben voilà, on change, demain c'est fermé, on retourne à la situation avant l'adhésion de la Grande-Bretagne au marché commun, et puis on vit comme on peut, parce que c'est pas la guerre, c'est simplement un changement des règles du jeu ». Donc Madame May est en grande difficulté. Et ce qui n'a pas été dit, parce que j'ai cherché ce matin un petit peu dans les dépêches de presse pour savoir s'il était fait écho des grosses manifestations pro-Brexit qui ont eu lieu à Londres ce week-end, je n'ai vu pratiquement aucune trace, à part sur des sites britanniques. Effectivement, il y a eu une grosse manifestation parce que les citoyens britanniques qui ont vu que Madame May commençait à essayer de manœuvrer en recul, d'essayer de trouver un autre accord avec Bruxelles et tout, se sont dit « bon, il est confirmé qu'elle ne veut pas du Brexit, ce qu'on appelle le Brexit dur, c'est-à-dire le 30 mars au matin, ben c'est fini, on n'y est plus, qu'elle trouve des accommodements. » Et donc, il y a une grosse méfiance qui est encore accentuée par le fait qu'il y a eu un jugement ces derniers jours de la Cour de justice européenne disant que si un pays, alors il s'agissait d'un cas presque théorique, si un pays demande l'application de fameux l'article, je crois, 50 du traité de l'Union pour dire qu'il veut sortir, là, effectivement, il y a négociation. Mais cet arrêt de la Cour de justice européenne est très, très intéressant puisqu'il dit si la Grande-Bretagne nous dit qu'elle a décidé de ne plus demander l'application de l'article 50, ben on considère que dans la mesure où son changement de position est appuyé dans les dispositions constitutionnelles de la Grande-Bretagne, on considérera qu'elle n'a jamais demandé à quitter. Donc les gens qui sont pour le Brexit en Grande-Bretagne commencent à se méfier en disant « est-ce qu'on n'est pas en train de nous acheminer vers une remise en question des résultats du référendum ?» C'est ça qui est, tout ça qui est derrière là. Et là où le vice juridique se trouve, c'est que la Constitution britannique, parce que je reprends les termes de la Cour de justice européenne, la Constitution britannique, ça n'existe pas. Parce que dans le droit anglo-saxon, il n'y a pas une constitution. Il n'y a pas une constitution. Il y a un certain nombre de textes, il y a ce qu'on appelle la common law, qui s'accumule au fil des temps et tout, et qui font une espèce de cadre référentiel juridique, mais ce n'est pas une constitution. Donc il n'y a pas viol de la constitution dans un cas ou application de la constitution dans un autre. Il y a adaptation aux circonstances tenant compte d'un certain passé et d'un acquis jurisprudentiel. On ne va pas très très loin, c'est-à-dire ça donne beaucoup beaucoup de souplesse. Et donc quand la Cour de justice européenne dit conformément aux dispositions constitutionnelles britanniques, elle laisse à Mme May la liberté de faire à peu près ce qu'elle veut, et en particulier de s'asseoir sur le résultat du référendum. Mais ce faisant, elle ouvrira certainement une crise politique d'envergure. Parce qu'en plus, la question du Brexit, on le sait, divise à la fois les conservateurs et les travaillistes. Et donc, effectivement, les jours de Madame May et donc le système britannique sont menacés. Et on en reparlera sans doute pendant plusieurs semaines, en attendant ces échéances, à la fois les échéances de fin janvier sur l'arrêt définitif, l'approbation ou la non-approbation du protocole signé avec la Commission européenne, ou bien la fameuse échéance du 29 mars, qui changerait tout de la situation. Voilà ce qu'il était important de rappeler sur ce dossier. Je reviens un petit peu quand même sur ce que j'ai dit tout à l'heure sur la politique stratégique des États-Unis pour expliquer donc un peu en détail le travail qui se fait au Congrès, cette fameuse commission sur la stratégie nationale qui est donc une commission de 6 républicains et de 6 démocrates et qui donc a fait des scénarios pour l'année 2024. Alors voilà, il faut quand même le lire pour le croire. En 2024, la Chine attaque Taïwan. Et envahit Taïwan et l'occupe. Bon. Et à ce moment-là, alors ça c'est le scénario et la commission qui dit ça, et hélas, les États-Unis n'arrivent pas à un coût acceptable à refouler l'envahisseur chinois de la terre taïwanaise. Ça c'est bien bien embêtant, donc il faudrait effectivement donner des moyens militaires, des moyens financiers supplémentaires à l'armée des États-Unis. Et même chose, je vous l'ai dit, côté russe, ben, la Russie envahit les républiques baltes, et donc là il faut absolument trouver un moyen pour les dissuader de le faire. Alors, bien entendu, vous ne trouverez rien dans les déclarations, ni dans les positions, ni dans les analyses de la diplomatie et des militaires, ni chinois, ni russes, qui préparent ce genre d'opération. Les uns comme les autres sont en situation de dire, et ils le disent et ils le font, de préparer une défense contre un adversaire qu'ils considèrent comme de plus en plus agresseur. Mais on voit bien comment fonctionne l'espèce d'enfermement dans leur monde, domination, enfermement intellectuel de la couche dirigeante, de la couche politique des États-Unis. Nécessairement, nos deux adversaires vont faire des fautes. Or, en fait, quand on fait le compte, et c'est ce qu'a fait William Bloom que je citais dans la plupart de ses ouvrages, c'est que les agressions chinoises depuis la création de la République populaire, ben, on n'en a pas vu. Les agressions russes, on n'en a pas vu non plus, puisque je rappelle que quand même le rattachement de la Crimée à la Russie a été voté à 95% ou 97% par la population criméenne, qui n'avait pas donc des fusils mitrailleurs dans le dos pour le faire et qui était russophone depuis fort longtemps. Voilà, on est en pure élucubration, mais qui sont simplement le fait, la démonstration que la politique des États-Unis est en fait dirigée par les grandes entreprises militaires qui en font leur beurre. C'est rien de plus que ça. Et qui trouvent toujours un moyen, en corrompant les élus du Congrès, en suscitant des campagnes de presse contre tel État voyou, etc., qui trouvent le moyen donc d'obtenir encore de l'argent et de susciter des nouvelles interventions militaires des États-Unis. À propos d'interventions militaires des États-Unis, je voudrais signaler que la température est en train de monter au Kosovo. Alors le Kosovo, vous vous souvenez, c'est ce petit morceau de la République de Serbie qui a été, à la suite des bombardements par l'OTAN de la dite Yougoslavie en 1999, détaché concrètement et pratiquement du territoire de la République serbe. C'est-à-dire il y a un gouvernement à Pristina, au Kosovo, il y a une espèce d'administration d'État, et puis il y avait, ça faisait partie de la fin de conflit, une espèce de force de protection. Alors il y a d'une part une force de l'OTAN qui s'appelle la KFOR, et puis d'autre part une force spécifiquement kosovare qui est là pour un peu le maintien de l'ordre sur le territoire du petit Kosovo. Et en fait, le gouvernement actuel donc, du Kosovo prend en considération le fait, qui fait partie bien entendu de la manœuvre, que la KFOR va être dissoute et n'interviendra plus, pour dire « je vais créer une armée nationale ». Donc à ce moment-là, si dans une partie du territoire d'une république, je rappelle que du point de vue du droit et du point de vue de l'ONU, le Kosovo fait toujours partie du territoire de la République serbe. Mais si vous constituez une armée dans une partie du territoire, ça veut dire que vous officialisez la sécession. Vous êtes un séparatiste, vous êtes un séparatiste armé. La KFOR n'étant pas faite pour ça, la KFOR c'est une force de l'ONU qui était là pour, autant qu'elle pouvait, éviter les heurts entre Serbes et Kosovars. Donc on est en train de repartir sur une nouvelle crise sur côté Kosovo, crise qui va, c'est une façon de compliquer la situation diplomatique dans cette région-là du monde. Donc il est déjà beaucoup avec l'Ukraine, qu'il est relativement de façon importante en Moldavie, qu'il est un peu moins mais qu'il a été en Macédoine. C'est-à-dire qu'il y a une série d'abcès en préparation autour de la Russie qui, si on en croit les documents du Congrès des États-Unis et de la commission stratégique dont je vous parlais, la Russie serait en fait en train de préparer l'agression, alors que c'est en fait exactement l'inverse. Car si le gouvernement de Pristina, le gouvernement kosovar, décide de se fabriquer une armée, c'est qu'il a effectivement le feu vert des États-Unis et que cette armée sera équipée de matériel américain dans sa totalité. Voilà ce qu'il importait de rappeler. Une autre chose, d'une part, oui, il est temps de le dire, je rappelle que demain soir, on se retrouve donc sur l'antenne de Radio Galère pour une émission spéciale sur le Venezuela, en invitant donc Romain Micus, qui est un journaliste excellent connaisseur de la situation vénézuélienne, où il se rend régulièrement, sur un thème qui est tout simple à expliquer, puisque je parle de la politique étrangère des États-Unis. Ce thème, il est tout simple. Ça fait donc des années que le Venezuela suit sa politique à lui, qui n'a pas l'heure de plaire à Washington. Et la difficulté, la tension s'est accrue. À partir donc de l'année 2015, la tension s'est accrue d'une façon qu'il mérite d'être soulignée. C'est-à-dire qu'en 2015, un certain Barack Obama signe et donc publie, rend officiel ce qu'on appelle un executive order dans le jargon donc juridique américain, qui est un décret présidentiel, donc que le président prend seul, le président s'engage et il déclare, alors tenez-vous bien, regardez la taille du Venezuela, son PIB, sa population, etc., regardez la taille des États-Unis, Monsieur Obama, on est en mars 2015, déclare que le Venezuela est une menace pour les États-Unis. Sic. Alors, menace pour les États-Unis. Alors, si vous écoutez ça, ça veut dire que dans le quart d'heure, enfin, il y a déjà des commandos vénézuéliens qui vont sauter sur Miami ou sur New York, etc. Non, non, ce n'est pas une menace. Alors, voilà, c'est là qu'est toute la dialectique états-unienne. La menace contre les intérêts des États-Unis, parce qu'effectivement, le pétrole vénézuélien, qui est abondant, probablement les réserves les plus importantes du monde, n'est pas entre les mains des multinationales des États-Unis. Ce qui est un peu dommage, tant qu'il est tout près, beaucoup plus près que l'Arabie saoudite, le Nigeria, etc. Donc c'est vraiment dommage que ce pétrole-là soit entre les mains vénézuéliennes, et ça menace effectivement les intérêts. Et puis alors, le Venezuela, quel drôle d'idée, se met à acheter du matériel militaire, parce qu'il se sent, lui, un peu menacé. L'autre se dit menacé, mais le plus menacé des deux, c'est évidemment pas celui qui le dit. Mais le Venezuela se sent tellement menacé qu'il est en train de s'équiper avec du matériel qu'il n'achète pas aux États-Unis, qui ne lui vendrait d'ailleurs pas, puisqu'il y a menace. Et donc, ça préoccupe beaucoup. Et donc, à cette date-là, donc de 2015, M. Obama déclare que le Venezuela est une menace pour les États-Unis. À partir du moment où un document juridique de cette taille, de cette importance, un décret présidentiel, dit qu'un pays tiers est une menace, à partir de ce moment-là, ça rend beaucoup de choses possibles et même normales du point de vue des administrations des États-Unis, du point de vue du citoyen américain. Puisque ce pays-là est une menace, il faut le sanctionner, on ne se laisse pas, quand on est les États-Unis d'Amérique, on ne se laisse pas menacer. Et donc, on va prendre des mesures contraires, c'est-à-dire qu'on va utiliser tout type de techniques possibles, techniques de susciter des oppositions, les financer, leur donner du matériel, créer des groupes de pression ici et là. Enfin, il y a toute une série de possibilités, donc sur les questions de banques qui ne doivent pas travailler avec le Venezuela. Enfin, il y a une gamme énorme qui n'est pas simplement, elle ne se limite pas à une action guerrière classique, mais il y a une guerre contre le Venezuela, une guerre qu'on appelle, certains l'appellent les guerres de quatrième dimension, d'autres les guerres hybrides, mais qui consiste à dire ce pays-là est une menace, et bien on va le faire tomber. Alors lui, son pays, surtout le gouvernement actuel, qui constitue l'expression de cette menace, soi-disant menace. Et on en est là donc depuis 2015, puisque ce décret de 2015 a été renouvelé une nouvelle fois par Obama avant qu'il quitte la Maison-Blanche, et Donald Trump a réédité la même mesure, c'est-à-dire qu'il a confirmé récemment, en prenant lui aussi un executive order, un décret, que le Venezuela était une menace pour les États-Unis. Alors tout ce qui se passe au Venezuela, et on en parlera demain soir, est en fait la façon dont les États-Unis gèrent cette menace, c'est-à-dire quel dispositif, quel financement, quels moyens ils utilisent pour rendre la tâche du gouvernement vénézuélien difficile, pour le rendre impopulaire, pour faciliter les tentatives de coup d'État. Il y en a une cet été, puisque un drone est venu donc attaquer le président à une tribune d'une cérémonie, et si le drone avait réussi son opération avec les explosifs, c'était non seulement le président, mais une bonne partie de l'état-major politique du Venezuela qui mourait. Donc on en est à ce niveau-là de violence. Alors après, toute une série de campagnes, bien entendu, qui font partie de la diabolisation du Venezuela, campagne de diabolisation qui touche évidemment la France, qui est elle-même tout à fait porteuse, enfin la France, la République française et sa direction actuelle, qui est tout à fait porteuse du discours anti-vénézuélien. Donc ça sera l'objet de l'émission de demain soir. Ensuite, je voulais vous parler un petit peu, revenir sur la question, les questions qui occupent la... Ah non, j'ai une petite information sur le Pakistan qui mérite qu'on s'y arrête. Je regarde. Alors sur le Pakistan, vous savez que le Pakistan, à la suite d'élections tout à fait normales, s'est doté d'un nouveau Premier ministre, il s'appelle Imran Khan, qui a cette particularité, on s'en doutait un petit peu, mais ça se confirme, de dire assez haut et fort ce qu'il pense. Alors je rappelle que le Pakistan, c'est quand même pas loin de 200 millions d'habitants, c'est une puissance nucléaire. Et ce Premier ministre, Imran Khan, qui n'a pas la langue dans sa poche, a dit qu'il avait décidé de ne pas obéir aux ordres des États-Unis. Et je cite une de ses phrases. « Notre armée, » dit le Premier ministre pakistanais, « notre armée n'est pas une armée à la solde », a-t-il précisé, faisant référence à la guerre contre l'Union soviétique dans les années 80 et à la prétendue guerre contre le terrorisme menée par les États-Unis. Imran Khan a accusé, je le cite, les États-Unis de repousser le Pakistan malgré l'aide du pays pour aider les talibans afghans à des pourparlers de paix. Et il y a eu un échange de tweets, puisqu'entre Donald Trump et lui, M. Imran Khan dit « Il n'est pas question d'une guerre sur Twitter, mais l'objectif est de poser le cadre d'une bonne coopération entre les deux pays. » Alors ça veut dire très clairement, jusqu'à présent, vous aviez affaire à des généraux et à l'armée pakistanaise que vous avez formée, équipée, etc., qui, en gros, étaient très, très dociles et très souples par rapport à vos positions. Maintenant, c'est fini. C'est fini. Moi, je n'obéis pas. Simplement, je considère qu'on a un dialogue d'égal à égal et je ne ferai que ce que le Pakistan aura décidé librement de faire. Parce que les accusations des États-Unis et donc de Trump, il était dit « Vous accueillez les talibans, vous les aidez, etc. » Et M. Imran Khan répond « Nous avons à plusieurs reprises demandé aux Américains de mettre sur la table des preuves sur l'existence des abris des talibans sur notre territoire. Nous n'en avons jamais reçu. » Donc là, c'est très intéressant parce que je signale que ça a des conséquences pas très loin de là. Ça a des conséquences au Yémen. Non pas qu'alors le Pakistan faisait, avant que Imran Khan soit élu, partie de la coalition saoudienne contre le Yémen. Ça n'avait jamais entraîné de conséquences pratiques, c'est-à-dire il n'y a pas eu de corps d'armée pakistanais qui sont venus au Yémen, mais il y avait quand même un appui politique et diplomatique, ils étaient d'accord. Et là, il a clairement dit dans d'autres circonstances, c'est fini. Moi, je ne participe pas au massacre des Yéménites, c'est fini. Hein. Que les Saoudiens se débrouillent, ils sont embarqués dans cette affaire. Moi, je ne suis pas du tout dans cette opération. Donc, c'est intéressant de voir le Pakistan qui est en train de faire le grand garçon, en disant, ben, c'est moi qui commande chez moi et ce n'est pas les autres. Et je vais finir très rapidement. En revenant sur la situation française et en vous lisant, si on a combien de minutes ? 3 minutes, ça va. Alors, c'est un communiqué de la Fédération syndicale mondiale. Fédération syndicale mondiale, c'est une des deux internationales syndicales qui existent. C'est la plus petite des deux pour l'instant, mais à laquelle une série de fédérations de la CGT, contrairement à leur confédération, ont décidé d'adhérer. C'est ça qui donne du sens. Et la Fédération syndicale mondiale, qui regroupe à peu près 100 millions de syndiqués dans l'ensemble du monde, beaucoup dans des pays qu'on appelle encore du tiers-monde, s'intéresse à la situation française. Et ils disent... Frères et sœurs, travailleurs et travailleuses de France, nous sommes avec vous encore le 14 décembre. Collègues, camarades, combattants, frères et sœurs qui luttaient contre la politique du président Macron, nous sommes avec vous une fois de plus le 14 décembre 2018, où des fédérations militantes organisent des grèves, des manifestations et des activités multiformes en exprimant le contenu de classe de la lutte. De la part de la Fédération syndicale mondiale, de nos 95 millions de membres qui vivent et luttent dans 130 pays des 5 continents, nous joignons notre voix internationaliste avec vous et nous soutenons vos justes revendications. Nous condamnons la bourgeoisie et le gouvernement de France qui refusent jusqu'à aujourd'hui de satisfaire les revendications des couches populaires qui se mobilisent depuis plusieurs jours. Il est très important le fait que Macron et son gouvernement, malgré leurs trucs et leurs manœuvres, n'ont pas réussi à arrêter la combativité des travailleurs. En tant que FSM, nous lançons appel à nos membres et à nos amis à soutenir les initiatives de nos frères en France, la classe ouvrière, à l'avant-garde de la lutte avec ses mobilisations de grève pour porter un coup décisif au gouvernement Macron et paralyser la production capitaliste. La classe ouvrière peut unir le peuple et isoler les éléments racistes et réactionnaires. Les syndicats de classe, avec leur expérience et leurs principes, peuvent donner du contenu et de la perspective également à la lutte de ces jours. Nous condamnons la violence de l'État et le terrorisme contre les manifestations, la mobilisation de 100 000 policiers, l'utilisation de véhicules blindés, l'arrestation de 1 700 personnes et la barbarie du mécanisme étatique témoignent l'hypocrisie du gouvernement. Voilà, ça peut continuer un peu plus, mais l'essentiel est dit, donc c'est un soutien international aux actions menées par le peuple militant de France contre son gouvernement. Et on va finir par la petite musique que j'avais sélectionnée, qui ne va pas vous surprendre, en vous rappelant, donc on se retrouve demain soir pour l'émission sur le Venezuela, en remerciant Hachim qui a fait la technique.
Merci voilà. À vous.
Ben, voilà, c'était un plaisir de t'avoir là. Hachim est stagiaire donc à Radio Galère et sous l'œil vigilant mais chaleureux de Sidi, il a fait le travail habituel de la technique. Je la remercie encore beaucoup. Donc à demain et à très bien, pour ceux qui ne pourront pas nous écouter demain, à mardi prochain pour la prochaine chronique d'actualité. À bientôt, au revoir.